Donc, bienvenue à la dernière conférence de notre cycle sur religion et politique en islam. Et ce soir, on sortira du monde arabe, qui a quand même été l'essentiel des conférences cette année, pour voir la question de l'islam, tout simplement du pays qui compte le plus de musulmans au monde, c'est-à-dire de l'Indonésie. C'est vrai que que le monde arabe alimente la chronique quotidienne et que nous, en France en tout cas, nous parlons beaucoup moins souvent du cas indonésien. Et donc, je pense que ça peut être intéressant d'introduire l'Indonésie dans nos réflexions ici et dans les réflexions en général en France sur l'islam. Et je suis très fier que l'ISM ait contribué à introduire l'Indonésie dans le débat avec deux ouvrages récents. Donc l'ouvrage de Rémi Madinier, notre conférencier, qui s'appelle « L'Indonésie entre démocratie musulmane et islam intégral, histoire du parti Mazmoujoumi », et le livre que je n'ai pas apporté, parce que je croyais que l'éditeur allait être là, de Gwenaël Njotofeyar, qui porte sur islam et capitalisme, sur le nouveau capitalisme islamique en Indonésie. Donc, qu'est-ce que l'Indonésie peut apporter à notre réflexion par rapport aux autres situations que nous avons connues ? L'Indonésie peut apporter dans cette réflexion le fait qu'un grand parti à dominante musulmane, qui était le parti Mazmoujoumi, qui était à l'origine du passage à l'indépendance de l'Indonésie, est un parti qui a adopté le pluralisme et le multiconfessionnalisme dans la structure politique, dans la première constitution de l'Indonésie. L'expérience a duré, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Rémi en parlera après, une dizaine d'années, et a certainement marqué jusqu'à aujourd'hui le système politique indonésien et aussi l'islam indonésien, même si depuis une partie de ces militants de la première indépendance de l'Indonésie ont tourné vers des formes plus radicales de l'islam. Donc, pour nous en parler, Rémi Madinier, qui est en France sans doute le meilleur spécialiste de l'Indonésie contemporaine, qui est chercheur au CNRS, qui, après le diplôme de Sciences Po, a passé l'agrégation d'histoire, et qui, pour sa thèse sur l'Indonésie, avait eu, il y a longtemps, le premier prix illustre de l'ISM récompensant les nouvelles thèses sur le monde musulman. Entre-temps, Rémi et moi sont devenus amis, et comme vous le savez, il co-dirige l'ISM avec moi. Parmi les ouvrages qu'il a publiés, donc celui-ci, auparavant, il avait publié un ouvrage collectif avec André Feyer qui s'appelle « La fin de l'innocence, l'islam indonésien et la tentation du radicalisme » qui est apparu il y a 2 ans en traduction anglaise, et un autre ouvrage en anglais, « The Politics of Agama in Java and Bali ». Donc là encore, c'est la question de la gestion du confessionnel et du religieux dans le cas indonésien. J'avais fait avec lui aussi une série de séminaires sur les missions chrétiennes en terre d'islam, et il avait aussi apporté un éclairage intéressant à partir du cas indonésien où on a, disons, des adhérents à un certain type d'islam qui s'était laissé séduire par le catholicisme des jésuites. Mais je vais m'arrêter là. J'ai peut-être déjà raconté un certain nombre de bêtises, parce que je ne suis pas très fort sur l'Indonésie. Et je donne la parole à Rémi pour sa conférence.
Merci Bernard. Puisque nous en sommes dans les petites nouvelles de l'ISM, je me permets de vous signaler que Bernard, hébergé ici présent, vient de recevoir le prix de l'œuvre d'Orient pour son ouvrage « Les chrétiens au Proche-Orient, de la compassion à la compréhension ». Voilà. Alors, donc aujourd'hui, je vais m'interroger à partir du cas indonésien sur la question de la démocratie musulmane. Le cas indonésien, Bernard l'a bien rappelé, a l'intérêt de décentrer un peu notre regard par rapport au monde arabo-musulman, qui souvent est considéré un petit peu comme l'étalon, en dépit des évidences démographiques, hein, puisqu'il faut rappeler qu'il y a autant de chrétiens, de musulmans en Indonésie, pardon, que, qu'il y en a dans le monde arabe, et que 60% de la population musulmane du globe est en Asie. J'ajouterai également que, et je vous en dirai deux mots tout à l'heure, ça permet aussi de situer un peu différemment notre regard à nous, Français, par rapport à ces questions. Je vais tout de suite essayer de vous convaincre un petit peu de l'originalité du cas indonésien et de ce qui peut importer. Alors, ça n'est pas très lisible. Et c'est en indonésien. Alors, je vais vous demander de me faire confiance. Cela dit, il y a quelques personnes dans cette salle qui lisent l'indonésien et qui pourront valider mes propos. Vous avez sous les yeux le principal programme de ce qui a été certainement le plus grand parti islamique du monde, le Masyumi. Alors, c'est un peu un raccourci, car ça a été le plus grand parti indonésien dans le plus grand parti musulman du monde. Ce programme a été édité lors des élections de 1955, qui ont été les premières et pendant très longtemps les uniques élections libres en Indonésie avant celle de 1999. Et dans ce programme, donc, ce parti musulman appelait évidemment à voter pour lui et donnait 55 raisons comme l'année de cette élection. Eh bien, si vous arriviez à lire et si vous lisiez l'indonésien, vous constateriez qu'il n'y a dans ce programme aucune référence à l'islam, que ce soit sous le nom d'islam ou sous le nom de musulman, et que la seule mention qui est faite de la religion est pour inscrire la tolérance religieuse dans ce programme, dans le projet politique de ce parti. Donc, une espèce de première contradiction, au moins apparente, pour un parti se réclamant de l'islam. Je ne vais pas vous laisser sur cette note un petit peu idéale et je vais passer aux héritiers de ce parti qui sont les gens qui diffusent ce type d'image, hein, le Dewan Dakwah Islamia Indonesia. Bernard, si tu veux pas te dévisser la tête, tu peux regarder mon ordinateur, je pense que ça ira mieux. qui s'inscrivent, et je vous en dirai évidemment un peu plus tout à l'heure, dans la continuité directe du parti Masyumi dont je viens de vous montrer le programme. Donc vous voyez qu'on a l'impression d'une sorte de grand écart en termes d'ouverture et d'idéologie sur ces questions au sein d'un même courant. Alors j'en viens maintenant à une question qui est également importante, qui est celle de notre perception à nous. Et c'est un sondage qui a été effectué, vous avez sous les yeux, par la Pew Foundation en décembre 2008, et qui posait une question assez simple. Est-ce que la religion est quelque chose de très important ou d'assez important pour vous dans votre vie personnelle et dans la vie publique de votre pays? Et ce sondage, vous comprendrez, me plaît beaucoup, puisque le pays qui arrive en tête, pour ce qui est de l'importance, à 95% très important, à 4% important, donc un total de 99% d'Indonésiens, le pays avec ce critère, l'Indonésie, donc apparaît comme le pays le plus religieux au monde parmi la trentaine de pays qui étaient ciblés. Et le bon dernier, c'est la France. 10% seulement de Français répondaient très important à la question « Est-ce que la religion est importante pour vous ?» 27% pensaient que c'était assez important. Et le reste, 63%, si je ne fait pas d'erreur, pensait que ça n'avait pas d'importance pour leur vie personnelle et la vie de leur pays. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette distorsion, de ce grand écart entre France et Indonésie? On peut en tirer le fait que, ou plutôt d'abord, comment peut-on l'expliquer? Il y a plusieurs explications, mais je m'arrêterai pour ce qui est de ce soir à ce qui me semble la plus importante pour notre sujet aujourd'hui. C'est celle de la question des valeurs, et en particulier des valeurs de la démocratie, de la République. En France, vous le savez, la République s'est construite contre l'Église et par ricochet, pas uniquement contre l'Église, mais contre un ordre dans lequel l'Église avait son importance, et par ricochet, assez largement contre la religion, contre la religion catholique, ou du moins une certaine pratique de la religion catholique. Et il a fallu, au bas mot, un siècle, si on prend la date du ralliement, plus encore si on inclut la période de Vichy, pour qu'il y ait une réconciliation totale entre la religion et la démocratie dans notre pays. En Indonésie, c'est l'inverse. La démocratie, la République et les valeurs qu'elle porte sont nées avec le modernisme musulman. Et les premières organisations importantes à réclamer une indépendance, à réclamer une égalité, ont été des organisations religieuses, des organisations musulmanes, pas uniquement musulmanes, mais évidemment celles qui étaient musulmanes étaient les plus importantes. Et donc, être patriote, être républicain, être démocrate en Indonésie, c'est en grande partie être musulman. Il n'y a pas de contradiction, bien au contraire, entre ces termes, alors qu'évidemment, en France, et les vicissitudes de la démocratie chrétienne l'ont montré, les choses ont été beaucoup plus compliquées. Donc voilà un petit peu les prolégomènes à mon exposé de ce soir, montrant à la fois les contradictions apparentes du cas indonésien que je vais essayer de vous éclairer, ou au moins de mettre un petit peu en scène, et aussi cette nécessité toujours de décentrer notre regard sur ces questions, et en le tournant vers l'Indonésie, on fait, à mon avis, aussi un exercice assez salutaire du point de vue des valeurs que je viens de rappeler, mais également aussi du point de vue de notre histoire, puisque c'est un pays avec lequel nous n'avons pas d'histoire coloniale, contrairement à une partie assez importante du monde arabe, et également avec lequel nous n'entretenons pas de rapport d'émigration. Donc, je dirais l'islam indonésien est un petit peu vierge de préjugés à notre regard. Alors, pour essayer de réfléchir à cette question de la démocratie musulmane en Indonésie, je vais vous présenter tout d'abord ce projet des démocrates musulmans qui a existé, dont Bernard vous a dit deux mots, à savoir un parti qui a été le plus grand parti indonésien, qui a été le principal parti de pouvoir entre 1945 et 1957, avec plusieurs premiers ministres, des participations à quasiment tous les gouvernements durant cette période, et qui a donc laissé dans l'histoire politique indonésienne une trace importante. Et ce parti, donc le Masyumi, ou le Masyumi, tout dépend comment on prononce en français, apporter un projet démocrate musulman dont je vais faire tout d'abord un petit peu la genèse. Alors cette genèse, elle nous oblige à remonter un petit peu les siècles pour en comprendre les conditions. La première que j'ai représentée ici à travers deux cartes sont les principaux empires de la période indo-bouddhique. Ce qui a précédé à l'islam, et c'est ce que souligne notamment Clifford Geertz et que reprend Philippe Diribarne dans son dernier ouvrage sur l'islam, c'est le fait que l'islam est arrivé sur un substrat extrêmement bien constitué en Indonésie. Un substrat que l'on va qualifier, faute de mieux, d'indo-bouddhique, parce qu'hindouisme et bouddhisme se sont mêlés en Indonésie. Pour la petite histoire, le temple de Borobudur, que vous connaissez sans doute, est un temple qui a été commencé comme un temple hindouiste et qui a été terminé comme un temple bouddhique. Cette période a laissé l'une des civilisations les plus avancées de l'époque en Asie du Sud-Est et même quasiment dans toute la région avant l'arrivée de l'islam. Et donc les deux grands empires, Sriwijaya et Majapahit, sont les symboles de cette période, mais aussi également élément très important, ils sont ceux qui ont, dans le récit national, dessiné l'espace national. C'est-à-dire, j'y reviendrai un petit peu plus tard, l'Indonésie, pour les nationalistes, y compris les nationalistes dits séculiers, c'est-à-dire non-islamistes, enfin, surtout pour eux d'ailleurs, est une Indonésie qui a été dessinée avant même la colonisation et avant même l'islam, puisque comme vous le voyez sur la carte de droite, l'emprise de Majapahit, qui était une emprise très large, très lâche, c'est-à-dire avec des relations tributaires, s'est étendue quasiment de la pointe occidentale de Sumatra jusqu'à la pointe orientale de la Nouvelle-Guinée, donc dessinant quasiment l'espace indonésien actuel. À cette période indo-bouddhique succède une islamisation tardive selon évidemment le calendrier musulman, puisque cette islamisation n'est repérée et n'influence les structures politiques qu'à partir de la fin du XIIIe siècle, date à laquelle, en l'occurrence, Marco Polo repère, signale, le premier observateur extérieur, l'existence de sultanats au nord de Sumatra. Alors, cette islamisation commence tardivement et elle va progresser de manière très lente. C'est important parce que la carte religieuse de l'Indonésie s'en trouvera affectée, ou du moins a été sans doute très différente de ce qu'elle aurait été s'il y avait une islamisation tardive, c'est-à-dire avant l'arrivée des colonisateurs chrétiens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, alors sur ce qui est de cette islamisation tardive, on pourrait dire presque qu'elle n'est pas finie, on peut le dire même, l'islamisation est encore à l'œuvre en Indonésie, quelque part. C'est-à-dire que après, à partir donc du XIVe siècle, elle commence à s'étendre de point d'appui en point d'appui. Vous avez là les principales cités portuaires qui se sont converties à l'islam, qui sont devenues des sultanats. Puis ensuite, peu à peu, à partir du XVIe, XVIIe, l'islam a commencé à pénétrer à l'intérieur des côtes. Mais en se matinant, en dessinant une religion, pourrait-on dire, ou un paysage religieux tout à fait particulier, puisque se teintant en quelque sorte du substrat préexistant. Il faut remarquer à cet égard, et ça explique sans doute pas mal de choses, que la progression de l'islam en Indonésie a suivi les mêmes voies que celle de la civilisation indo-bouddhique. Je dirais les mêmes voies et même les mêmes prétextes et a eu les mêmes ressorts. à savoir que les souverains locaux, les rois, ont adopté l'islam pour, selon les mêmes méthodes et pour les mêmes raisons que leurs ancêtres 8 siècles ou 10 siècles auparavant avaient adopté l'hindouisme ou le bouddhisme, à savoir celle d'un accès à un réseau culturel et commercial qui courait depuis l'Inde jusqu'à la Chine, hein, puisque, comme vous le voyez sur cette carte, l'Asie du Sud-Est, et en particulier la partie insulaire et péninsulaire, fonctionne comme une sorte de NAS, attrapant en quelque sorte les influences, les échanges entre deux des plus grandes civilisations du monde, l'Inde et la Chine. Et donc, de la même façon que l'Asie du Sud-Est, enfin, ce qui va devenir l'Indonésie, avait été hindouisé, pour rester ou pour participer à ce réseau, elle va s'islamiser, hein, les rajas se convertissant, prenant le titre de sultan au moment où l'océan Indien est devenu une mare islamicum et où, pour relier non seulement une partie de l'Inde, mais évidemment le bassin méditerranéen, il faut faire partie de ces réseaux. Donc c'est une islamisation qui est tardive, qui est progressive, qui est très largement pacifiste. Il y a bien eu quelques conflits armés, en particulier à Sumatra, mais assez clairement, c'était des conflits entre puissances qui étaient déjà antagonistes, des petits royaumes déjà antagonistes, et à tel ou tel moment, effectivement, l'islam a pu... le désir d'islamisation a pu habiller, servir de prétexte à un passage à la lutte armée et de ce fait à une conversion des populations ou du moins de leurs souverains, puisqu'à l'époque, on se préoccupe surtout de la conversion des souverains et de la cour. Donc une islamisation par capillarité qui va s'étendre tout doucement. Et je vous l'ai dit il y a un instant, ce matiné de ce vieux substrat indo-bouddhique qui va assez largement subsister en fonction d'ailleurs de sa force précédente. L'islam indonésien est un petit peu comme un batik. Le batik, c'est un... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode de teinture et de dessin des tissus. On dessine des motifs à la cire et on trempe ensuite ces étoffes dans des teintures, dans des bains de teinture successives. Et évidemment, là où il y a de la cire, la teinture ne prend pas. Et lorsqu'on l'enlève, la teinture, l'encre n'a pas pris, et on peut recommencer pour dessiner des motifs assez complexes. Eh bien, c'est un peu la même chose pour l'islam indonésien. Là, plus le substrat indo-bouddhique était solidement ancré, comme ça a été particulièrement le cas à Java, moins l'islam a pris, ou plus il s'est teinté de ce substrat indo-bouddhique. Je vous montrerai dans un instant que ça a eu et que ça a encore des conséquences sur le lien au politique de cet islam. Mais auparavant, revenons à la question de l'expansion de cet islam. Cet islam va être stoppé dans son expansion par l'arrivée des colonisateurs chrétiens. Alors tout d'abord, les colonisateurs hispaniques, espagnols et principalement portugais, qui vont s'installer à partir du XVIe siècle dans l'est de l'archipel, dans les îles à Épis de l'époque, les Moluques principalement, puis un peu plus au sud, ce qu'on appelle les petites îles de la Sonde, dont le Timor, dont la partie orientale restera longtemps portugaise, jusqu'à son invasion en 1975 par les Indonésiens. Dans un second temps, à partir du XVIIe siècle, par les Néerlandais. Alors, les Néerlandais vont peu à peu chasser les Espagnols et surtout les Portugais, et ils vont avoir une politique un petit peu différente, beaucoup plus pragmatique vis-à-vis de la religion. Autant les Portugais et les Espagnols, un petit peu comme aux Philippines, étaient encore dans une logique de reconquista, ils ont entrepris une conversion systématique lorsque le rapport de force le permettait. À l'occasion, ils ont pu être aussi très pragmatiques et nouer des alliances avec les sultanats, jouant de la concurrence d'un sultanat contre un autre, comme à Ternate et à Tidore, aux Moluques. Mais dans l'ensemble, ils étaient dans une logique un petit peu du refoulement de l'islam et l'évangélisation, non pas forcée, mais disons efficace. Par contre, pour ce qui est des Néerlandais, leur approche a été très différente, principalement parce que la colonisation néerlandaise a été une colonisation d'abord de compagnie à Chartres, la VOC, la Compagnie des Indes Orientales, et qui, sous mandat de la couronne, était avant tout là pour faire des affaires, et donc ne faisait absolument pas intervenir le facteur religieux, et a même interdit le prosélytisme chrétien pendant très longtemps dans la plupart des régions d'Indonésie. Les choses ont un petit peu changé dans la seconde moitié du 19e siècle seulement, et c'est à cette époque-là que la carte religieuse de l'Indonésie va se fixer. À cette époque, en effet, les Néerlandais, et cette fois c'est la couronne qui gérait directement les Indes néerlandaises, vont autoriser un certain nombre de missions, de manière là finalement également assez pragmatique, puisqu'ils vont créer ce qu'ils appelaient des zones tampons, c'est-à-dire des zones, en particulier, vous le voyez dans le nord de l'île de Sumatra, des zones qui permettent de contenir ou qui permettaient de contenir des régions où l'islam était assez remuant. Et à Sumatra, vous avez tout au nord la zone d'Aceh, qui est une zone, la première région islamisée d'Indonésie, et une région où l'islam a toujours une identité très forte. Et un peu plus au sud, vous avez ce qu'on appelle le pays Minangkabau, qui a été également un lieu d'un islam très affirmé. Et entre les deux, les Hollandais ont autorisé des missions, pas seulement néerlandaises d'ailleurs. Hein, ici, il s'agissait de la Rhenish Mission, parce que les Néerlandais n'avaient pas les forces nécessaires, à s'installer et à christianiser cette zone. Et ils l'ont fait dans quelques autres régions, donc vraiment une réelle politique afin de favoriser des poches de christianisme pour éviter d'avoir des régions trop uniformément musulmanes. Et puis à Java également, ça s'est fait. Là, ça s'est fait de manière un peu plus facile, c'est-à-dire que cette un peu plus souple, c'est la christianisation de Java était assez largement privée, pourrait-on dire, c'est-à-dire d'abord débutée par des colons eux-mêmes, mais sans l'appui réel de sociétés missionnaires, puis par des Javanais eux-mêmes, qui ont souvent joué un rôle décisif dans la conversion de leurs compatriotes. Et là encore, le cas javanais est particulier et dessine ce dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, qui est ce qu'on peut appeler une synthèse mystique qui va avoir, encore une fois, des conséquences politiques importantes. Alors, j'en reste pour l'instant aux questions purement géographiques et je vous montre donc le résultat final qui se dessine au début du XXe siècle et qui est encore valable aujourd'hui, qui est la carte suivante, donc la répartition des musulmans et des chrétiens en Indonésie. Ici, vous avez les chiffres de 2000, mais encore une fois, ils ont très peu évolué depuis le début du XXe siècle, depuis les années 20 à peu près. Et vous voyez clairement que se distingue une Indonésie de l'Est et une Indonésie de l'Ouest d'un point de vue religieux, avec une ligne qui passerait à l'est de Sulawesi, la grande île en forme de pieuvre, et rejoindrait en gros Bali, qui est l'île immédiatement à l'est de Java. À l'est de cette ligne, on est dans une région où l'islam est généralement minoritaire, et parfois même très minoritaire. À l'ouest de cette ligne, par contre, vous le voyez, le bleu domine. On est dans des régions où on atteint ou on dépasse la moyenne nationale, qui est de 88% de musulmans, selon les chiffres officiels. Alors, ce sont des chiffres qui sont complètement sanctuarisés en Indonésie. On a quasiment à la décimale près les mêmes chiffres depuis 1945. Ils étaient estimés à l'époque. Maintenant, ils ont été, entre guillemets, scientifisés par les recensements. Mais les recensements sont truqués pour qu'on reste à ce chiffre. C'est-à-dire, l'enjeu est tellement important que, et ça m'a été rapporté par des enquêteurs, enfin des gens chargés du recensement, notamment dans certaines régions de Java, quels que soient les chiffres qu'ils ramènent, on les remet quasiment au même niveau du recensement précédent pour ne pas attiser la peur de la christianisation, notamment qui marque l'islam indonésien depuis une vingtaine d'années. Bon, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, État islamique et État unitaire en Indonésie sont deux notions contradictoires. Et c'est ce que vont rapidement comprendre les pères de l'indépendance, Sukarno et Atta, que vous avez sur la photo de droite et qui sont un petit peu les représentants politiques de cette synthèse mystique que j'évoquais tout à l'heure. Alors, cette synthèse mystique, je vous l'ai représentée ici par un art traditionnel qui est le Wayang Kulit, le théâtre d'ombre javanais, qui en gros met en scène des scènes des grandes épopées indiennes, Ramayana et Mahabharata, en les accoquinant à la sauce javanaise, voire indonésienne, avec souvent d'ailleurs des références à l'actualité, et qui postule, pour faire court, de l'importance de l'équilibre entre microcosme et macrocosme. Sur le tronc qui est fiché enfin sur le tronc qui sépare le montreur de marionnettes du public, il y a une figure que vous voyez à gauche et à droite qui représente l'équilibre du monde et qui tombe au début de la représentation et qui ne se relèvera au bout d'un moment, enfin au bout de longues heures de spectacle, que quand l'harmonie du monde aura été rétablie par les héros. Et donc l'idée qui est derrière tout ça, c'est celle d'une immanence, d'une imbrication très profonde entre l'harmonie du monde des dieux et l'harmonie du monde des hommes. Et c'est quelque chose, c'est une notion politique qui demeure encore très forte, puisque en 1998, lorsque Suharto a commencé à vaciller, l'Indonésie a été plongée dans une crise économique, sociale, politique d'une extrême violence, on est venu lui demander, et quand je dis on, c'est un ensemble de leaders religieux, pas seulement musulmans, principalement musulmans, mais pas seulement musulmans, qui sont venus lui demander, au nom de ses valeurs d'harmonie ancestrale, de se retirer. On a utilisé la formule javanaise à l'époque, qui n'a rien de musulmane, de se retirer pour justement permettre la restauration de cette harmonie. Donc c'est un vocabulaire politique, une grammaire qui reste encore extrêmement forte. Sans rester à 1998, revenons plutôt à 1945. Donc en 1945, un courant politique parvient en quelque sorte au pouvoir. C'est ceux que j'ai qualifiés tout à l'heure de nationalistes séculiers. Ce sont des musulmans, souvent des musulmans très pieux. Mohamed Atta, que vous voyez ici à gauche avec des lunettes, premier vice-président de la République d'Indonésie, a eu à peu près le même parcours religieux, familial, que Mohamed Natsir, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui va être le grand président du Masyumi. C'est un musulman très, très convaincu. Mais comme Sukarno, qui lui a un background, une culture beaucoup plus javanaise, va choisir de mettre à distance de manière très claire la religion, l'islam en l'occurrence, pour créer une Indonésie qui ne soit pas un État islamique ou qui ne se revendique pas du tout de l'islam ou pas plus de l'islam que d'autres religions, mais qui va se revendiquer de toute sa pluralité religieuse. Et ceci est le résultat donc de cette synthèse mystique qui va connaître sa traduction idéologique dans le Pancasila, qui est l'idéologie nationale, et en particulier dans le premier de ces cinq principes, la croyance en un dieu unique, Ketuhanan Yang Maha Esa, et qui montre l'importance de ce vocabulaire de la synthèse mystique dans la constitution de l'identité politique de l'Indonésie. Alors vous le voyez ici à plusieurs éléments. Tout d'abord, l'aigle qui porte les armoiries de l'Indonésie. Hein, les armoiries représentent donc les cinq principes. C'est l'aigle Garuda, hein, c'est la monture sacrée de Vishnu dans l'hindouisme. Le vocabulaire qui est utilisé est un vocabulaire sanskrit, Yang Maha Esa. On utilise le sanskrit alors qu'on aurait dû logiquement utiliser le malais, mais le malais a été la langue de l'islam, alors que le sanskrit est bien sûr la langue de l'hindouisme et du bouddhisme. Donc symboliquement, on met en avant cet héritage indo-bouddhique. Et il y a quand même évidemment un équilibre, puisque dans le même temps, cette notion de croyance en un dieu unique fait évidemment référence au tawhid de l'islam, à l'unicité divine, qui est un élément très important. Mais le dire dans une langue qui met volontairement l'islam à distance, à savoir le malais, le sanskrit plutôt que le malais, c'est évidemment tout un symbole. Hein. Et donc, on a là une sorte de caractéristique de cette synthèse mystique qui est finalement également la partie qu'on pourrait dire élaborée politiquement de l'islam à Bangan, à savoir un islam matiné de croyances pré-islamiques. Donc voilà un petit peu tout ce qui va entourer, accompagner, précéder l'arrivée sur la scène politique du parti musulman. Et c'est évidemment très important puisque un parti politique dans un cadre démocratique, évidemment, se doit de convaincre non seulement ses co-religionnaires, mais également, enfin, surtout ses concitoyens. Et c'est sans doute l'élément le plus important dans la genèse du parti démocrate musulman du Mashoumi dont je vais vous parler maintenant. Donc, je vous ai un petit peu décrit l'arrière-plan, le contexte qui va avoir une grande importance. Je vais vous parler maintenant un petit peu de ce parti. Alors, ce parti, voilà la photo de quelques-uns de ses principaux dirigeants. Le plus à gauche, Mohamed Nasir, dont je vous ai dit deux mots tout à l'heure. Au milieu, Shafruddin Prawira Negara, qui a été plusieurs fois ministre, qui a joué un rôle important dans la révolution indonésienne, puisque c'est lui qui, lors de la première opération de police hollandaise, ce qui est un doux euphémisme pour un épisode important de la guerre coloniale, a sauvé en quelque sorte la République. Et le troisième, c'est Mohamed Roum, qui est celui qui a signé les accords qui vont mener à la reconnaissance en 1949, après 4 ans de guerre, de l'indépendance indonésienne, reconnaissance par l'ancien colonisateur, les Pays-Bas. Donc, on est vraiment ici en présence de leaders de premier plan qui vont porter au sommet de l'État un discours extrêmement ouvert, désacralisé, presque sécularisé de cet islam politique, comme vous l'a montré le programme que je vous ai montré en introduction de cet exposé. Alors, je n'ai pas le temps ici de m'étendre sur, encore une fois, sur la sécularisation, presque la laïcisation de ce parti, mais en deux mots, je vous dirais simplement que le Mashoumi, finalement, a assez bien correspondu à ce que Jacques Maritain disait de la démocratie chrétienne. Il disait la démocratie chrétienne, c'est agir en chrétien et non pas en tant que chrétien. Eh bien, pour ces dirigeants, la démocratie musulmane, leur parti, c'était agir en musulman et non pas en tant que musulman. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'ils étaient prêts, et ils l'ont fait en plusieurs occasions, à abandonner le label islam pourvu que les valeurs qu'ils mettaient derrière ce label, la justice, l'égalité, soient reconnues. Et ça a permis très concrètement une alliance avec des forces politiques portant les mêmes valeurs, et en particulier les chrétiennes. Les forces politiques chrétiennes, à savoir le Parti catholique et le Parti protestant. Je me suis amusé à reprendre, enfin amusé c'est un bien grand mot, mais je me suis employé à reprendre l'ensemble des votes à l'Assemblée indonésienne entre 1945 et 1958, et les trois forces politiques, pardon, qui étaient le plus proches politiquement, était le parti musulman Mashoumi et les deux partis chrétiens, le parti catholique et le parti protestant. C'est le parti catholique et le parti protestant étaient quasiment des partis frères ou des partis annexes, appelez-les comme vous voulez, de ce parti musulman. Parce que ils voyaient que il y avait là, il y avait une convergence très nette en termes à la fois d'intérêts politiques, hein, une opposition à la gauche communiste en particulier. Et en termes de projet social, un projet socialement assez conservateur, économiquement plutôt socialisant, donc une véritable élément d'une véritable rencontre politique. Je ne peux pas ici aller plus en détail sur les, encore une fois, ces éléments d'ouverture. De ce parti, de mise à distance, s'éloignant ainsi du schéma entre guillemets traditionnel du lien au politique. Hein. Ici, je pourrais peut-être y revenir dans les questions si ça vous intéresse plus particulièrement, mais je vais plutôt essayer de comprendre ces conditions. Je vous ai parlé de cette synthèse mystique, donc. Ce paysage qui était dessiné, qui contraignait et qui a contraint aussi le Machoumi. Mais il y a également d'autres éléments. Il y a d'abord le parcours de cette génération de dirigeants qui prend les rênes de ce parti en 1945, en particulier les trois que vous avez sous les yeux, qui sont donc à la fois les enfants de la politique éthique du gouvernement colonial hollandais et ceux du réformisme musulman. Cette politique éthique, elle a été mise en place à partir de la fin du XIXe siècle par le gouvernement colonial hollandais, pris d'un espèce de remords pragmatique vis-à-vis des conditions de la colonisation et à la suite de la dénonciation par des Néerlandais, dont notamment Max Havelaar, qui a donné son nom à une association pour de commerce équitable que vous connaissez sans doute tous, des conditions de cette colonisation, c'est-à-dire en gros une exploitation incompatible avec les valeurs, y compris les valeurs chrétiennes, puisque ce discours a été repris ensuite par les partis chrétiens réformés et catholiques néerlandais, qui, lorsqu'ils arrivent au pouvoir en 1900, vont officiellement promouvoir une nouvelle phase de la colonisation dite éthique, composée principalement d'un volet médical et surtout d'un volet, et c'est ça qui nous intéresse ici, éducatif. Et ces éthicistes, comme on les appelle, hein, former une élite assez étroite, mais une élite indonésienne à l'enseignement européen, hein, néerlandais bien sûr, mais à travers lui, à toutes les valeurs du XXe siècle naissant européen. Et ce qui est intéressant, c'est que ils étaient assez peu nombreux, hein, je vous donne quelques chiffres. En 1940, il y a déjà 60 millions d'Indonésiens. Là-dessus, dans les écoles dédiées à cette politique éthique, c'est-à-dire qui apportait un enseignement moderne et européen aux Indonésiens, il y en avait à peu près un peu moins de 100 000 dans le primaire, 8 000 en collège, 800 en lycée et 200 à l'université. Donc vous voyez, lycée-université, 1 000 personnes, une toute petite élite, a rapporté 60 millions d'Indonésiens. Et si on regarde par contre, si on compare ça avec les membres, la direction du Majumi, les 57 membres du Parlement, il y en avait 48 qui avaient été éduqués soit au lycée, soit à l'université dans ce système européen. 38. Et parmi les 15 membres de la direction centrale, il y en avait 13 qui avaient suivi des cours dans ces lycées hollandais et 8 dans les universités. Donc seulement deux membres de cette direction avaient seulement une éducation traditionnelle, c'est-à-dire religieuse. Tous les autres étaient véritablement des produits, des enfants de cette politique éthique. Et donc ça a eu une influence très nette dans leurs écrits. Quand on les lit dans les années 30 à 50, on est surpris par l'omniprésence de la référence occidentale, les Lumières, les grands penseurs européens, américains, les sociologues aussi, Gustave Le Bon est cité très régulièrement, Ernest Renan est sans doute l'auteur le plus cité, alors ça a été aussi le cas dans d'autres parties du monde musulman. Ce qui est aussi très très intéressant, c'est lorsqu'ils parlent de l'islam, lorsqu'ils écrivent l'islam commande de faire ceci, de faire cela, ils citent certes des versets du Coran, mais ils citent aussi très régulièrement, presque tout le temps, en appui des scientifiques, des islamologues occidentaux, comme si cette référence à l'Occident était nécessaire, y compris... Il s'adresse ici à leurs compatriotes indonésiens et musulmans, y compris vis-à-vis de gens qui devraient se satisfaire de la référence coranique. Donc, vous voyez qu'on va ici très loin dans l'influence occidentale coloniale qui est véritablement réemployée, complètement appropriée par cette génération de dirigeants. Et on a là quelque chose qui est poussé très loin, certes, mais qui est finalement dans la ligne du réformisme musulman dans sa version moderniste, c'est-à-dire dans sa version, vous avez eu l'occasion d'en entendre plusieurs fois parler lors de ces conférences, dans sa version qui entend opérer un retour aux sources de l'islam, mais à ses principes, grâce à ces principes, lancer une adaptation à la modernité par opposition au réformiste fondamentaliste qui, lui, veut simplement revenir à la lettre, beaucoup plus scripturaliste, qui ne se pose pas de questions d'adaptation de l'islam au monde moderne, mais veut plutôt plier le monde moderne à son interprétation de l'islam. Ici, on est vraiment dans une démarche... dans un concordisme très poussé, puisque on négocie en permanence entre valeurs occidentales. Et quand je dis on négocie, c'est même pas un processus de négociation, on fusionne en permanence les valeurs démocratiques occidentales avec les valeurs coraniques. Alors, donc ce double héritage est évidemment très important, triple si on ajoute la synthèse mystique dont je vous parlais, mais il y a également les circonstances. Les circonstances ont été favorables à ce projet, principalement deux d'entre elles, qui vont en quelque sorte border le Mashoumi à sa gauche et à sa droite. À sa droite, c'est le Darul Islam, c'est une rébellion islamiste régionaliste qui éclate à partir de 1947-1948 dans plusieurs régions d'Indonésie et qui va porter un discours assez réactionnaire. Ce discours assez réactionnaire, au départ d'ailleurs, n'a pas d'origine extrêmement religieuse, puisque les premières rébellions du Darul Islam, enfin toutes les rébellions du Darul Islam, sont d'ailleurs toutes liées au problème d'intégration des milices islamistes qui avaient lutté pendant la guerre d'indépendance, aux côtés de l'armée, enfin pas aux côtés d'ailleurs, dans l'armée républicaine contre les Hollandais. Et surtout en 1949, quand l'indépendance est définitivement acquise, on va intégrer un certain nombre de ces milices dans l'armée, mais évidemment on ne peut pas intégrer tout le monde, c'est une problématique qu'ont connue tous les pays qui ont accédé à l'indépendance, et on est obligé d'en laisser certaines de côté. eh bien, les milices, certaines des milices islamistes concernées vont refuser de se désagréger et vont rentrer en rébellion avec un discours musulman à l'appui sur le thème nous aurions dû créer un État islamique en 1945. Parce que le Panjshila que je vous ai indiqué, que je vous ai montré, en particulier son premier principe, la croyance en un Dieu unique, va être accepté par le Masyoumi, Masyoumi qui à l'époque rassemble l'ensemble des forces politiques de l'islam, et ça va faire un certain nombre de mécontents dans ses rangs, puisque notamment le grand leader du Darul Islam de Java West, Carto Suvirio, était un ancien du Masyoumi. Donc ce Darul Islam, qui va rassembler des rébellions régionalistes prétendant lutter au nom de la création ou pour la création d'un État islamique, va constituer une sorte de repoussoir de figures déformées de l'islam politique avec un visage intolérant qui va être utilisé par ses adversaires, en particulier le parti qui soutenait Sukarno, qui était le parti national indonésien, et va forcer les gens du Masyoumi à clarifier leur discours. Et c'est tout à fait étonnant de voir qu'au fur et à mesure de la progression du Darul Islam, donc qui naît en 48 et qui va atteindre son apogée au milieu des années 50, tout ce qui faisait référence notamment à l'État islamique et qui figurait assez naturellement dans les programmes du Masyoumi au départ, au moment de l'indépendance en 1945, va disparaître. C'est-à-dire le Negara Islam Indonesia, l'État islamique indonésien, qui était un concept assez vague, mais tout à fait naturel, un État dans lequel les valeurs de l'islam seraient représentées. Ce concept va disparaître au profit de choses beaucoup plus claires, c'est-à-dire à la fois beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus claires, un État dans lequel les valeurs de l'islam seront mises en œuvre dans le respect de la diversité religieuse. Voilà, c'est en gros, encore une fois, un éloignement sémantique des réflexes islamistes, hein, la référence à la charia qui va également disparaître peu à peu, la référence à l'État islamique qui mérite d'être expliquée, tout ça, encore une fois, sous la pression de cette concurrence du Darul Islam qui constitue véritablement un visage déformé de ce que pourrait être l'islam politique. L'autre force politique qui va aborder cette fois sur sa gauche le Masyoumi, c'est le PKI, le Parti communiste indonésien, le Parti communiste indonésien. Et là, sur la caricature que vous avez sous les yeux, qui est une caricature tirée d'un des journaux du Masyoumi, vous voyez le PKI, évidemment reconnaissable à la faucille, au marteau, mais on lui a quand même mis son nom sur son t-shirt pour qu'il n'y ait pas de doute, qui est en train de décapiter le banteng, le buffle d'eau, symbole un des grands symboles de l'Indonésie, qui porte à chaque patte un des principes du Pancasila et sur sa tête le premier de ces principes, la croyance en un Dieu unique. Et donc, une des grandes. Vous l'aurez compris, le Parti communiste était le grand adversaire du Masyoumi, qu'il accusait, enfin, le Masyoumi l'accusait de vouloir promouvoir un athéisme d'État et de ce fait de décapiter littéralement l'Indonésie de sa religiosité. Cette opposition au PKI va contraindre ou plutôt d'ailleurs encourager, je dirais, cette alliance du Mashumi avec les autres partis religieux, hein, pour justement présenter l'idée d'un bloc religieux, d'un ensemble de valeurs, d'un ensemble d'organisations politiques portant des valeurs religieuses contre l'athéisme du PKI. Il va également, et ça sera aussi très important, rapprocher énormément le Mashumi de l'Occident. Hein. Mashumi sera assez proche des Occidentaux, en particulier des Américains. Les leaders du Mashumi effectueront plusieurs voyages aux États-Unis. D'ailleurs, lorsque arrivera le moment de la rébellion, un peu plus tard, en 1958, il y a eu même un projet d'intervention américaine en Indonésie, assez important, qui aurait pu être comparable à la guerre du Vietnam, pour venir en aide à la rébellion des dirigeants du Mashumi. Rébellion, en effet, parce que le parti Mashumi et son projet démocrate musulman vont connaître la désillusion et la répression, et ce qui va expliquer leur repli sur un islam intégral. Alors la première désillusion, elle est électorale. En 1955 ont lieu les premières élections, dont je vous ai montré le programme tout à l'heure. Et là, énorme surprise, le Mashumi, dont tout le monde pensait, y compris ses propres adversaires, qu'il était et de loin et le premier parti d'Indonésie, et c'est pour ça d'ailleurs que régulièrement il détenait le pouvoir, il avait des ministères importants, voire le poste de premier ministre. Le Mashumi perd les élections, arrive second derrière le PNI qui soutient Sukarno, et pas très loin devant le parti communiste. Alors, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est une scission au sein du Mashumi entre ce qui va rester le Mashumi, qui fait donc, vous l'avez sous les yeux, 20,9%, et un parti qui s'appelle Nahdlatul Ulama, qui est en fait issu d'une association qui auparavant faisait partie du Mashumi, qui représente l'islam traditionnaliste, c'est-à-dire le courant de l'islam qui s'oppose au désir de réforme de l'islam moderniste, pour faire court, c'est-à-dire qui défend un islam beaucoup plus ancré dans son terroir, mais également un islam fidèle au mazhab, aux écoles de rite que va remettre en cause le courant moderniste, et qui a fait scission en 1952 avec le reste du Mashumi, parce que les modernistes, dont je vous ai montré les visages tout à l'heure, faisaient assez peu de cas de ces vieux leaders religieux que l'on considérait comme complètement dépassés et sans influence. Et là, ils vont comprendre le poids de cet islam traditionnaliste lorsqu'ils vont découvrir leurs résultats aux élections. Si vous additionnez les deux, vous apercevez quand même l'islam politique fait 40% des voix, ce qui est évidemment considérable. Voilà. Et donc, comment sont lus ces résultats? Eh bien, ils sont lus comme le fait que la politique d'ouverture dont je vous ai parlé, cette démocratie musulmane extrêmement ouverte, extrêmement tolérante, assez tournée vers l'Occident, est un échec. Et de ce fait, à l'intérieur même du parti, se développe, ou plutôt prend des forces, un courant qui existait avant, qui va être porté notamment par Isan Chari, qui était décrit comme par Mohamed Nasir, dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme le McCarthy du Mashumi, c'est-à-dire quelqu'un de très, très véhément dans ses condamnations morales, notamment. Et là, c'est une citation, la constitution d'Isan Chari, donc, citation d'Isan Chari, qui revient sur cette acceptation du Panjasila, puisque le Panjasila figure en préambule de la Constitution. Donc il dit, lors de l'Assemblée constituante, la Constitution du 18 août 1945 fut l'œuvre de quelques dirigeants jakartanais, non le choix d'une majorité populaire. Et donc, ce courant qui existait donc auparavant va peu à peu voir son audience augmenter à l'intérieur du parti. Mais surtout, ce qui va être décisif, c'est le fait que les dirigeants dont je vous ai montré le portrait, qui vont rester fidèles à ce projet de démocratie musulmane, vont en quelque sorte mourir, enfin ils ne vont pas mourir, mais ils vont disparaître de la scène politique en héros de la démocratie. Car en effet, les élections de 1955 n'ayant pas donné de majorité assez nette, l'Indonésie bascule, ou plutôt d'ailleurs continue à fonctionner un peu comme notre 4e République, c'est-à-dire avec une succession relativement instable de gouvernements, de coalitions. Et Sukarno en profite en 1958 pour dire qu'il faut abandonner la démocratie occidentale et adopter une démocratie dirigée qui correspond mieux aux valeurs intrinsèques du pays. Et de ce fait-là, la démocratie parlementaire est abandonnée et le seul parti à la défendre, et il le fait d'ailleurs au nom des valeurs universelles de la démocratie, sera le Masyumi, qui est interdit en 1960 et dont les leaders sont emprisonnés. Ceci donc va expliquer une mutation très importante, mutation de ces anciens démocrates, du fait de la marginalisation politique. Cette marginalisation politique dure encore après la chute de Sukarno, hein, puisque le général Suharto et l'armée prennent le pouvoir en 1965-66 dans un bain de sang, avec notamment un massacre très important des communistes. Et le général Suharto va poursuivre la politique, en gros, de Sukarno, qui est finalement celle qu'avaient eue les Hollandais, d'ailleurs, avant l'indépendance, qui est celle d'une marginalisation complète de l'islam politique, c'est-à-dire d'une interdiction de son expression sur la scène politique. Et donc, les dirigeants du Masyumi, dont je vous ai parlé, qui étaient en prison, vont non pas y rester, mais risquer d'y retourner, on leur dit clairement, si ils persistent à vouloir faire de la politique. L'armée ne veut pas de cette force politique, démocrate et musulmane, dont elle voit bien, évidemment, le danger pour elle. Et donc, c'est le repli, c'est une phase de repli, une phase d'introspection critique, de ces anciens démocrates qui vont former une association, le Dewan Dakwah Islamia Indonesia en 1967, qui va être le lieu de ce repli, de cette introspection, de cette aigreur aussi politique, et l'occasion de revisiter un peu toute cette ouverture pour finalement dire que ce n'était sans doute pas la bonne solution. Cette évolution est favorisée par une christianisation assez indéniable au début de l'ordre nouveau. L'ordre nouveau est un régime pro-occidental qui a renversé ce qu'on craignait qui allait devenir un régime communiste. C'est un régime dans lequel les sino-indonésiens jouent un rôle économique important. Ils servent de relais économique aux militaires. Et c'est un régime qui, de ce fait, voit un certain nombre de chrétiens occuper des positions très importantes, y compris des jésuites, d'ailleurs. Ce qui crée débat, mais c'est un autre sujet au sein même de la Compagnie de Jésus. Ce qui va évidemment alimenter la hantise de la christianisation de la part de ce Dewan Dakwah Islamia Indonesia. Donc il y a finalement, c'est l'idée d'une trahison, l'idée d'une trahison de beaucoup de gens, d'une trahison des nationalistes qui vendent leur pays aux plus plus offrant à l'Occident. C'est aussi le moment, on est au début des années 1970, où le regard du monde musulman sur l'Occident change parce que l'Occident a changé. 1968 est passé par là et autant les musulmans indonésiens étaient relativement proches moralement des occidentaux dans les années 50, autant là on voit apparaître le discours de la dépravation de l'Occident, etc. Donc tout ça fait que se développe une sorte de mentalité de citadelle assiégée qui va entraîner une radicalisation du discours. Et c'est assez étonnant de voir chez les mêmes personnes, en quelques années évidemment très intenses, marquées par la rébellion, par la prison, par la marginalisation, un discours devenir, qui était un discours d'ouverture et de tolérance, devenir un discours de repli et d'agressivité, en particulier vis-à-vis des chrétiens et de leur place et un petit peu de l'organisation de la société politique. Et ceci explique donc un changement assez notable de l'ambiance politique indonésienne et la fin au moins au premier plan de cette démocratie musulmane indonésienne. Alors, bon, cependant, les choses sont un petit peu plus complexes que je viens de vous les décrire, même si elles vous paraissent peut-être déjà très compliquées, au sens où une partie, et notamment le monsieur que je vous ai mis à droite, Nurkolish Majid, une partie des héritiers du Majoumi sont ses véritables héritiers, c'est-à-dire qu'ils ont repris le discours de la grande époque, de la grande période, et vont continuer à le défendre. Simplement, eux vont sortir du champ politique. Et ce Nurkolish Majid va avoir un discours tout à fait intéressant, mais qui va assez mal passer d'ailleurs, y compris dans les rangs du Majoumi, sur le thème « Il ne faut plus faire de politique en tant que musulman parce qu'il faut désacraliser notre lien au politique. Il faut faire de la politique, certes, mais en tant que citoyen, en musulman, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est ça l'idée, mais il ne faut plus s'avancer en tant que parti islamique. Ça n'a plus de sens. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est que les partis chrétiens, à la même époque, vont adopter le même discours et vont peu à peu sortir du champ politique en disant ben voilà, les chrétiens ne doivent plus exister en tant que force politique propre, parce que ça contribue aussi à les isoler, à dresser des barrières, mais il faut qu'ils peuplent l'ensemble du champ politique. Et à côté de ça, à côté de cet héritage libéral qui subsiste, un héritage qui est finalement celui des gens qui ont continué sur cette lancée de repli va exister, ce sont notamment les gens qui vont travailler avec le centre culturel d'Arabie Saoudite, la LIPIA, qui va former tout un tas de gens au Moyen-Orient et qui va opérer en Indonésie en quelque sorte une jonction entre ce modernisme qui était auparavant un modernisme d'ouverture avec un certain néo-fondamentalisme, c'est-à-dire les wahhabites, les anciens wahhabites qui vont se rejoindre. C'est un phénomène qu'on voit ailleurs dans le monde musulman, mais qui est tout à fait net ici et qui va littéralement exploser au moment, en 1998, au moment de la chute de Suharto, parce qu'il y a un grand vide politique qui va favoriser ce qu'on a appelé avec André Feillard les opportunités du chaos. C'est-à-dire, la nature ayant horreur du vide, des radicaux, certains assez proches liés au Dohan Dakwa dont je vous parlais, vont s'emparer de quelques sujets symboliques. La peur de la christianisation aux Moluques pour les Lascar Jihad qui vont aller porter le djihad aux Moluques, parce qu'aux Moluques il y a des affrontements qui au départ ne sont pas des affrontements confessionnels, mais qu'ils deviennent, qui vont s'organiser ensuite selon des limites confessionnelles. Et puis le front des défenseurs de l'islam, le front Pembelad Islam, qui lui va également se saisir de la légitimité que l'État n'a plus pour, soi-disant, lutter contre le vice, hein, avec des descentes dans les quartiers chauds, dans les débits de boissons, dans les années 96-2002. Donc, ce qui est un peu, je dirais, la conséquence, la queue de comète des phénomènes que je viens de vous décrire. Alors, la place de l'islam politique aujourd'hui, où en est-on ? Quelques éléments également de comparaison avec d'autres champs. L'islam indonésien était d'abord marqué par le terrorisme, mais on pourrait dire par un échec finalement pas si relatif que ça, de ce terrorisme. L'Indonésie a été frappée par plusieurs attentats meurtriers, en particulier à Bali en 2001 et 2002. Le dernier a eu lieu à Jakarta en 2011, mais c'est un attentat beaucoup plus ciblé. Et globalement, ce terrorisme n'a pas réussi au sens où il n'a pas créé, ici comme ailleurs, mais ailleurs il y est parfois, notamment en Irak, notamment en Algérie à un moment, n'a pas réussi à créer ce sorte de chaos originel dont rêvent les islamistes radicaux. Mais il a au contraire, il s'est complètement décrédibilisé. C'est-à-dire que les Indonésiens qui ont regardé le premier attentat de Bali avec un œil finalement presque complaisant dans les enquêtes d'opinion, et ça se voyait en particulier dans le fait qu'ils accordaient du crédit à des thèses assez fantaisistes, vont peu à peu, au fil des attentats, complètement changer leur regard, et non seulement leur regard, mais aussi leurs actes. Et quand je dis les Indonésiens, c'est le public indonésien. Ils vont très nettement, dans un second temps, à partir de 2003-2004, condamner la violence, condamner le terrorisme et, en gros, dénoncer tous les agissements suspects à la police. Ce qui fait que l'Indonésie, qui a quand même disposé d'un réservoir de terroristes potentiel de plusieurs milliers de personnes, entraînées, armées, de gens qui avaient été en Afghanistan en particulier, très nettement limiter, parvenir à lutter et très nettement limiter les attentats. Une des raisons également, et c'est un élément de comparaison intéressant, c'est que l'Indonésie a eu une politique assez intelligente de lutte policière contre le terrorisme, à savoir que l'Indonésie n'a quasiment pas torturé. A fait des procès. Alors, on a reproché, les Occidentaux ont reproché à l'Indonésie de traîner à condamner les terroristes, mais les procédures ont continué jusqu'à épuisement, jusqu'à cassation, jusqu'à recours en grâce présidentielle, etc., avant les premières condamnations, avant les premières exécutions en 2009. Mais du coup, il n'y a pas eu de martyr, malgré des tentatives. Il n'y a pas eu de martyr de la cause islamiste indonésienne. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et également, deuxième élément intéressant de comparaison, des organisations religieuses se sont impliquées dans la déradicalisation en amont et en aval. Alors, il y en a besoin. Il y en a besoin parce que, dans le même temps, l'Indonésie a une politique, notamment d'éducation, un peu contradictoire. Elle transmet des valeurs d'intolérance qui fourbissent, en quelque sorte, le terreau à des agissements qu'elle dénonce par ailleurs. Vous avez ici une caricature indonésienne d'Abu Bakar Bashir, qui était l'émir de la Jemaah Islamiyah, qui a été la principale organisation réformiste, et qui a été longtemps, qui a eu longtemps un accès assez complaisant à la parole publique. Alors, on l'interdisait de temps en temps, enfin, on le mettait de temps en temps en prison, mais on le ressortait, etc. Et ce qui, finalement, donnait l'idée que les choses pouvaient être dites. Hein. Ces valeurs d'intolérance pouvaient être colportées, cette haine des autres, qu'ils soient chrétiens ou mauvais musulmans, pouvaient... ces incitations à la haine pouvaient être disséminées dans le public. Et ça a eu des conséquences, en a encore, qui finalement concernent en termes numériques essentiellement des musulmans, ces fameux abangans dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des musulmans marqués par un certain syncrétisme, cette fameuse synthèse mystique que j'évoquais au début de cet exposé. Mais également des courants considérés comme dissidents, notamment l'Ahmadiyya, hein, l'Ahmadiyya qui est une secte musulmane qui a été créée en Inde et qui s'était étendue en Indonésie et qui existe depuis les années 20 ou 30 en Indonésie, qui était auparavant toléré, hein, pas forcément très bien vu, mais toléré, mais qui depuis quelques années est l'objet d'attaques systématiques, souvent très violentes, avec des lynchages de la part d'Indonésiens, d'organisations radicales, qui agissent finalement dans une certaine impunité, puisque là, contrairement au terrorisme, les condamnations ne sont pas très... très importante. Alors, autre élément important dans cette diffusion de l'intolérance et de ce nouveau poids de l'islam sur la politique, c'est ce qu'on peut appeler le prémanisme religieux. Les prémanes sont les bandits, donc c'est ce phénomène... on continue d'utiliser notamment le Front des défenseurs de l'islam, l'islam et les valeurs de l'islam comme prétexte à des activités semi-criminelles. Et surtout, l'instrumentalisation politique qu'en ont fait certains partis, mais des partis, paradoxalement, des partis séculiers. C'est-à-dire que ces partis... ont notamment, et c'est la carte à gauche de l'écran, vont promulguer un certain nombre de règlements conformes à la charia ou dits conformes à la charia, obligeant par exemple les femmes à se voiler, interdisant, moyennant amende, les gens à manger pendant le ramadan, etc., etc. Et donc ça, c'est véritablement un problème pour l'Indonésie, puisque on a en quelque sorte une captation de certaines valeurs, entre guillemets, valeurs de l'islam, par des partis séculiers, et finalement par des politiciens qui se prévalent de ces valeurs de l'islam pour... ne pas se faire attaquer sur leur identité islamique qui pourrait être mise en question. Parce qu'eux-mêmes sont plutôt originaires de milieux dits abangans, relativement syncrétiques. Donc on est dans vraiment un phénomène de mieux-disant islamique dont s'empare le politique, pas toujours avec des effets d'ailleurs importants, parce que la plupart de ces réglementations qui sont illégales, hein, qui peuvent par exemple interdire aux femmes de se déplacer la nuit seules, enfin non accompagnées de gens de leur famille, sont finalement assez peu appliquées. Mais c'est quand même un signe intéressant. À l'inverse, ce qui est également intéressant et finalement assez indonésien, c'est le fait que le PKS, qui est le parti issu de la tendance frères musulmans en Indonésie, n'a pas du tout connu le destin ni de ses confrères égyptiens, ni des confrères turcs. Et quand je parle de Lukum, c'est un clin d'œil ici à l'un de mes collègues indonésiens qui a écrit un article où il expliquait qu'il n'y avait pas de Turkish Delight pour les islamistes indonésiens, c'est-à-dire que ce parti issu des frères musulmans n'a pas réussi, bien qu'il soit devenu le premier parti islamiste d'Indonésie, son record de voix, c'est 8%. Donc vous voyez qu'on est très loin ou de la KP turque, sans parler des partis frères musulmans en Tunisie ou en Égypte. Alors, et que de ce fait, pour essayer d'aller un peu plus loin, il est obligé, il s'est contraint à une ouverture tout à fait étonnante. Vous voyez sur la gauche son affiche de son congrès en 2008, qui s'est tenu à Bali et qui a repris des symboles. C'est l'entrée d'un temple hindouiste ici, donc vous avez un parti islamiste qui volontairement tient, je dirais quasiment dans un temple hindouiste, son congrès. Et donc, vous voyez que là, au contraire, on a un effet plutôt positif de ce particularisme indonésien, même si ça ne fonctionne pas encore très bien. Alors pourquoi, si on compare avec l'Égypte et la Turquie, pourquoi finalement cet islamisme frères musulmans est-il aussi limité? Ben, finalement, un petit peu pour la raison précédente, à savoir cette carte dont je vous montrais, à savoir qu'il y a eu une confiscation par les partis séculiers, confiscation encore une fois souvent un petit peu malsaine et sur un registre très moralisateur du discours islamisant, hein. On n'est plus là dans les grandes valeurs brandies par le Massoumi. Mais du coup, ça a un peu coupé l'herbe sous les pieds des islamistes du PKS qui n'ont pas pu brandir ce monopole de la vertu, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il faut que je m'arrête, mais je vais bientôt m'arrêter. Mais qui, en tout cas, n'a rien à voir. Bon, je ne sais pas si c'est mon téléphone qui rentre en résonance ou pas. Du coup, n'a plus le monopole de ces valeurs islamiques. Quoi qu'il en soit, et ça sera mes derniers mots, il ne faut pas rester sur cette impression d'un islam indonésien qui aurait dérivé inexorablement vers l'intolérance ou vers le repli. Il subsiste encore un islam tolérant et progressiste, hein. C'est certainement le pays musulman du monde où ces courants dits libéraux, hein, mais ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça parce que c'est une manière aussi, enfin certains le revendiquent mais pas tous, parce que c'est une manière aussi de les disqualifier. Mais disons que des courants portant très loin à la fois la réinterprétation des textes coraniques en faveur d'une ouverture et notamment de la démocratie, c'est certainement le pays du monde où, d'une part, ils sont le plus nombreux et d'autre part, où ils peuvent le plus s'exprimer. Et ils ont une représentation politique, hein, à travers notamment les émanations des deux grandes organisations. Et ça, c'est aussi un élément très important par rapport à d'autres pays, par rapport à l'Égypte, dans lequel les frères musulmans étaient à la fois la confrérie, l'organisation et son émanation politique. En Indonésie, la Muhammadiyya et le Nahdlatul Ulama, qui sont la grande organisation réformiste et la grande organisation traditionnaliste, occupent le terrain, en quelque sorte, et donnent naissance régulièrement à des partis ne s'entendent pas d'ailleurs toujours entre eux, mais qui en tout cas montrent l'existence, même si on porte l'islam sur la scène politique, d'une pluralité des possibles, qui de ce fait empêche tout discours normatif qui pourrait prétendre s'imposer de lui-même. Voilà, je m'arrête. Merci.